comprenez la nature triple de la méditation bouddhique. L'exemple dont nous nous sommes servis plus haut pour expliquer comment gérer vos sentiments lorsque vous êtes confronté à une situation difficile mettait l'accent sur le fait qu'il faut abandonner les vieilles habitudes et voir la situation sous un autre angle. Dans l'exemple, il s'agissait aussi, du moins au départ, de ne pas vous laisser aller à vos réactions habituelles et, à la place, de vous asseoir en bordure de piste pour prendre du recul et ne rien faire, c'est-à-dire ne pas réagir. Mais l'enseignement du Bouddha contient des tas d'autres méthodes en plus de celles qui consistent à ne pas réagir. Dans le bouddhisme, la pratique de la méditation implique pour l'essentiel trois aspects d'habileté distincts, mais étroitement liés. L'attention, la concentration et la vision profonde. Bien que les diverses traditions divergent quelque peu dans les techniques dont elles se servent pour développer ces aptitudes, elles s'accordent généralement sur le fait que l'attention, la concentration et la pénétration agissent de concert et que toutes trois sont essentielles à tous ceux qui veulent atteindre l'objectif de la réalisation spirituelle. Écoutez le passage, rendez-vous compte que vous êtes conditionné plus haut dans ce chapitre. Avant que vous ne perciez les couches de conditionnement et que vous puissiez voir clairement et profondément la nature de l'existence, votre esprit a besoin de se calmer suffisamment pour permettre une telle pénétration. Cette partie du processus est celle dans laquelle deux des trois éléments clés de la méditation bouddhique deviennent bien utiles, l'attention et la concentration.
La différence entre la méditation analytique et la méditation intuitive. Le grand maître bouddhiste tibétain Kalo Rinpoche faisait une distinction utile entre deux types de méditation, la méditation analytique et la méditation intuitive. Dans la méditation analytique, vous vous servez de votre esprit conceptuel, c'est-à-dire de votre intellect, pour examiner et valider les leçons que vous recevez. Vous pouvez considérer cette approche comme une préparation de votre esprit au niveau plus profond de méditation en éliminant tout doute que vous pouvez avoir et en clarifiant votre compréhension intellectuelle. La méditation analytique peut aussi prendre la forme d'une exploration de vos habitudes de comportement et de réaction et celle de la recherche d'alternatives plus efficaces. Écoutez la section « Modifier votre angle d'approche » dans ce chapitre pour en savoir plus sur ce type de méditation. Mais pour faire l'expérience plus directe de la véritable réalité, vous devez avancer vers la seconde forme de méditation. Dans la méditation intuitive, vous cessez de vous servir de votre intellect pour rechercher et étudier, et vous ouvrez votre conscience de telle sorte que la réalité puisse vous révéler sa nature. C'est une expérience immédiate, en ce sens que votre esprit ne sert pas d'intermédiaire pour votre contact avec la réalité. Alors vous avez une vision profonde directe de la manière dont sont les choses, qui ne peut être réduite à des termes conceptuels. La méditation de l'établissement de l'attention, la méditation zen, zazen, et le mélange de calme et de vision profonde pratiqués dans la tradition tibétaine sont, pour la plus grande partie, des formes de méditation intuitive.
Pour vous faire une idée plus précise de la manière dont fonctionne l'attention, pensez à la parabole bouddhique souvent utilisée de l'étang dans la forêt. Si le vent et la pluie battent l'étang en permanence, l'eau aura tendance à être agitée et troublée par des sédiments et des débris organiques, et vous ne pourrez pas voir jusqu'au fond. Vous ne pouvez pas calmer l'étang en agissant sur son eau. Toute tentative dans cette direction ne fera que causer davantage d'agitation et qu'aggraver le problème. La seule façon de clarifier l'eau est de s'asseoir patiemment, de regarder l'étang, et d'attendre que les sédiments se déposent eux-mêmes au fond. Cette attention patiente et appliquée, appelée simplement « attention », est l'une des pierres angulaires de la méditation bouddhique. Le Bouddha a enseigné quatre fondements de l'attention. L'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à l'esprit, l'attention aux états mentaux. Lorsque vous êtes attentif, vous accordez simplement de l'attention nue à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment même, quoi que cela puisse être, des pensées, des sentiments, des sensations, des images, des imaginations éphémères, des humeurs changeantes, sans porter de jugement ni émettre d'interprétation ou d'analyse. La plupart du temps, vous remaniez et commentez l'expérience. Je n'aime pas ce qui est dit. Je préférerais qu'elle se comporte différemment. Je dois être ignoble pour avoir de telles pensées négatives. Mais la méditation de l'attention vous invite à accueillir votre expérience telle qu'elle. Et si vous résistez, si vous jugez, si vous attachez une interprétation à cette expérience, vous pouvez très bien aussi être attentif à cela. Les adeptes débutants de la méditation de l'attention commencent généralement par accorder de l'attention à leur respiration, c'est-à-dire à l'inspiration et à l'expiration. Écoutez le passage qui suit. Avec le temps, ils élargissent progressivement le champ de leur attention, d'abord à leurs sensations physiques, puis à leurs sentiments, et enfin au contenu de leur esprit ou objets mentaux. Finalement, ils vont sans doute réussir à être simplement assis, ce qui est parfois appelé « attention sans directive » ou « attention non sélective », dans laquelle votre esprit est ouvert et accueillant, et dans laquelle il accueille tout ce qui se présente sans sélectionner ni choisir certaines expériences pour se concentrer dessus. On encourage généralement les bouddhistes à pratiquer l'attention durant toute la journée, dans chacune de leurs activités, bien que l'attention soit particulièrement cultivée sur le coussin ou sur la chaise de méditation. Que vous soyez donc en train de conduire votre voiture dans la circulation, en train de faire la queue à un guichet de banque, de chercher vos enfants à l'école, de parler à un ami ou de faire la vaisselle, vous-même, qui que vous soyez, pouvez être attentif à vos sentiments, à vos sensations et à vos pensées, et cela au cours de n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez. L'attention offre le bienfait supplémentaire de rendre la vie plus agréable. Plus vous vous exposerez à la vie, plus vous l'apprécierez. Plus vous serez attentif, plus votre concentration se renforcera et s'approfondira naturellement. C'est un bienfait supplémentaire de l'établissement de l'attention. Si l'attention ordinaire et quotidienne ressemble à une ampoule de 100 watts, la concentration est comme un projecteur, ou, si vous la concentrez et en faites converger son faisceau lumineux avec précision, comme un rayon laser. Vous êtes peut-être déjà conscient de moments de votre vie quotidienne au cours desquels votre attention se focalise et s'approfondit naturellement, comme lorsque vous pratiquez un sport, que vous faites l'amour ou que vous regardez un film captivant. Lorsque vous vous concentrez, vous avez tendance à être absorbé par ce que vous faites. Tellement absorbé, en fait, que vous pouvez perdre conscience de vous-même et fusionner avec l'activité elle-même.
L'attention à la respiration, une forme de méditation bouddhique de base. Commencez par trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant 20 minutes ou plus par des interruptions ou des bruits. Mettez vos préoccupations et vos problèmes de côté pour le moment et asseyez-vous dans une posture confortable. Vous pouvez vous asseoir les jambes croisées sur un coussin selon la méthode asiatique traditionnelle ou sur une chaise à dossier droit ou encore sur une chaise ergonomique. Quelle que soit la position, veillez à ce que votre colonne vertébrale soit relativement droite et pourtant détendue, de telle sorte que vous puissiez respirer facilement et librement. Maintenant, portez doucement votre attention sur le va-et-vient de votre respiration. Certaines traditions recommandent de se focaliser sur la sensation du souffle alors qu'il entre et qu'il quitte les narines. D'autres préfèrent se concentrer sur le ventre qui se soulève et puis retombe alors que vous respirez. Quelle que soit la méthode que vous choisirez pour vous concentrer, conservez-la pendant toute la période de méditation. Soyez conscient des changements subtils et des modifications de vos sensations tandis que vous inspirez et que vous expirez. Lorsque votre esprit se met à dériver et que vous vous mettez à rêvasser ou à avoir des pensées obsédantes, ramenez doucement votre attention à votre respiration. N'essayez pas d'arrêter de penser. Les pensées et les sentiments vont naturellement surgir et disparaître alors que vous méditez. Mais autant que possible, évitez de vous y impliquer. prenez simplement plaisir à l'activité qui consiste à inspirer et à expirer. Au bout de 15 à 20 minutes, remuez doucement votre corps, levez-vous et reprenez vos activités quotidiennes.
De nombreuses traditions bouddhiques encouragent leurs adeptes à pratiquer l'attention focalisée parce que cela donne à l'esprit le pouvoir de pénétrer profondément dans l'objet de méditation. Le Bouddha a décrit 9 niveaux croissants d'absorption dans la méditation, qui sont appelés jhana. Dans la tradition Theravada de l'Asie du Sud et du Sud-Est, on dit parfois aux moines et aux nonnes de progresser à travers les jhana jusqu'à ce que leur concentration soit si puissante et leur esprit si calme qu'ils puissent s'en servir pour scruter profondément les eaux de la réalité. Pour en savoir plus sur la parabole de l'étang dans la forêt, écoutez le passage « L'établissement de l'attention » plus haut dans ce chapitre. La tradition Theravada telle qu'elle est pratiquée en Occident, où on l'appelle souvent Vipassana, ne met en général pas l'accent sur les jhanas, peut-être parce que la plupart des instructeurs n'ont jamais appris cette méthode de leurs propres instructeurs asiatiques. Les états de l'esprit que l'on trouve dans les jhanas, comme la béatitude, la joie et l'émerveillement, peuvent être si plaisants et si séduisants que les adeptes bloquent parfois à ce niveau et perdent leur intérêt pour l'établissement de la faculté de vision profonde, pénétration. En outre, certains instructeurs occidentaux, comme asiatiques, croient que les jhanas ne sont pas nécessaires pour l'établissement de la pénétration ou qu'il est trop difficile à la plupart des adeptes de la méditation de les cultiver. Que vous pratiquiez ou non la méditation en vous orientant avec ses différents niveaux, la concentration peut conférer de la puissance à la technique de méditation que vous pratiquez, quelle qu'elle soit. Dans la tradition zen, par exemple, l'attention focalisée, appelée joriki, est hautement appréciée parce qu'elle possède la propriété d'aider le méditant à résoudre les énigmes spirituelles appelées koan. Écoutez le chapitre 5 pour en apprendre davantage sur la pratique des koan. Dans la tradition Vajrayana, les méditants apprennent une technique de concentration appelée « calme mental » qui aide l'esprit à se calmer et à s'éclaircir, comme un étang d'eau calme, et permet qu'une pénétration plus profonde se produise. Finalement, les adeptes de la méditation Vajrayana considèrent que la véritable méditation est l'union de ce calme mental et de cette vision profonde. Après avoir établi votre attention et approfondi votre concentration, vous pouvez diriger votre attention sur la réalité elle-même. Les premiers stades de la méditation entraînent des bienfaits précis. Comme l'explique le passage, étudions les bienfaits de la méditation plus haut dans ce chapitre. Mais le stade final, c'est-à-dire la vision profonde ou sagesse, réside au cœur de toutes les traditions bouddhiques. Après tout, le Bouddha n'a pas enseigné de technique de réduction du stress ni d'amélioration des performances. Il a au contraire enseigné un sentier complet menant à un bonheur et à une paix suprême. Pour atteindre ce noble but, vous devez obtenir une vision profonde dans la nature fondamentale de qui vous êtes et de comment la vie fonctionne. C'est un événement qui changera votre vie. Il va sans dire que la réduction du stress et l'amélioration des performances ont chacune leur propre valeur relative digne de considération. Pour en apprendre davantage sur cette pénétration de la nature de la réalité qui change la vie, écoutez le chapitre 13. À ce niveau, nous voulons simplement signaler que les diverses traditions bouddhiques diffèrent dans les méthodes qu'elles recommandent pour acquérir cette vision profonde et même dans le contenu de cette pénétration elle-même. Dans la tradition Theravada, ou Vipassana, vous découvrez que la réalité, vous y compris, est marquée par l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence d'un soi substantiel et éternel. Dans la tradition Vajrayana, vous reconnaissez la qualité vaste, ouverte et lumineuse du monde phénoménal entier. Dans le Zen, vous prenez conscience de votre véritable nature qui est décrite de diverses façons par « vrai soi », « non-soi », « soi propre » et « non-né ». En réalité, ces différences relèvent sans doute plus des mots et des concepts que de la véritable expérience qu'ils décrivent. Ce qui compte dans cette expérience de vision profonde, peu importe la façon dont vous la décrivez, c'est qu'elle vous libère de la souffrance causée par vos vues et vos habitudes erronées et amène avec elle des degrés de paix, de satisfaction et de joie inconnus jusqu'alors.
Laissez l'esprit reposer en lui-même. Une fois que vous serez un adepte de la méditation de l'attention et que vous aurez acquis une certaine pénétration de la manière dont les choses existent réellement, vous pourrez pratiquer l'approche que l'on appelle être tout simplement assis dans le zen ou laisser l'esprit reposer en lui-même dans le Vajrayana. Paradoxalement, cette technique implique l'absence de toute technique et de toute manipulation du mental de quelque façon que ce soit. Les Tibétains emploient des termes comme non-méditation. Il s'agit en fait d'une technique avancée réservée en général aux adeptes expérimentés de la méditation. Mais certains instructeurs en Occident l'enseignent en premier lieu et de nombreux Occidentaux sophistiqués semblent très désireux de l'apprendre. Pour reposer dans la nature de l'esprit, vous devez avoir un accès direct à la nature de cet esprit, ce qui est habituellement transmis d'un maître à un disciple. Dans le zen, être tout simplement assis, shikantaza, est souvent décrit comme exprimant la nature de votre Bouddha intérieur sans essayer de réaliser ni de comprendre quoi que ce soit. Comme cette approche exige d'être guidée par un instructeur, nous vous en parlons, mais nous n'essayons pas de vous l'enseigner dans ce livre.